Bonjour Pierre Jamais.
Bonjour Anne-Rose.
Pierre Jamais, vous êtes le vicaire général du diocèse de Tarbes et Lourdes. Avec vous aujourd'hui, on va se plonger au cœur de la Lectio Divina. Alors, je précise en introduction que c'est un rendez-vous que nous allons décliner les quatre dimanches de l'Avent, tout au long de l'Avent, se plonger au cœur de la parole de Dieu. Et pour commencer, aujourd'hui, avec vous, eh bien, nous allons répondre, tenter en tous les cas de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que la Lectio Divina? Déjà, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur.
Oui, en effet, la Lectio Divina, il y a de quoi se demander à quoi cette méthode de prière, parce que c'en est une, se réfère. Et alors, ça vient d'un mot latin, déjà. Alors, pourquoi le latin? Pour ne pas confondre cette manière de prier avec d'autres manières de prier. C'est une relation particulière avec le texte biblique. Et ce n'est pas du tout la relation où je ne suis pas à ce moment-là dans la démarche du scientifique, du curieux, voire de l'esthète, mais je me mets dans la démarche du croyant, la relation du croyant, qui voit dans le texte des Écritures un lieu de rencontre avec son Dieu. Et alors, pour bien se comprendre, j'aimerais d'abord clarifier les deux mots, lectio et divina. Alors, le mot lectio a donné lieu en français au mot lecture et se réfère au verbe lire. Et dans cette démarche de prière, il y a donc un temps où il faut lire un passage de la parole de Dieu. Et le mot divina, on l'a tous vu, il contient le mot divin. Donc nous pourrions facilement dire que la lectio divina est une lecture divine, mais cela ne rendrait pas justice à cette manière de prier. Et je préfère plutôt retenir comme traduction française prier avec la parole de Dieu. Alors, cette lectio est divine de deux manières. D'abord parce que son objet est la parole de Dieu, et parce que celui qui lit l'absorbe d'une certaine manière pour se transformer, pour ressembler au Christ qui se donne à rencontrer à travers la lectio.
Ça veut dire que c'est une démarche vraiment personnelle, voire intime. On peut dire que la lectio divina, c'est quelque chose d'intime?
Oui, c'est la démarche du croyant qui veut rencontrer le Christ au sein d'une approche qui reste particulière. Mais, et nous pourrons en reparler aussi après, ça peut être aussi une démarche vécue à plusieurs, en petits groupes de 5 ou 6 personnes. Les pères de l'Église avaient coutume de rappeler que le but de la prière, c'est la charité. Donc, c'est, in fine, se laisser transformer. Le Seigneur veut avec nous une relation vivante, une relation aimante, et c'est une aventure de communion et donc de transformation, ne l'oublions pas. Et l'Évangile, eh bien, nous sommes appelés à l'écrire aujourd'hui avec nos propres vies.
Alors, concrètement, comment on fait? Parce que maintenant qu'on a compris tout ça, quel était le but, eh bien, il faut s'y mettre. Et ça a l'air assez exigeant. Comment on fait pour se plonger au cœur de la parole de Dieu et pour pratiquer cette lecture divine?
Je crois que d'abord, il faut repérer 4 attitudes. 4 attitudes, parce que ce genre de lecture suppose précisément cela. C'est la foi, la patience, le travail et l'humilité. Brièvement, la foi, c'est le point de départ. Dieu me donne rendez-vous pour me révéler quelque chose de moi et de lui aussi. Et comme tout rendez-vous, eh bien, cela se prépare. Je me rappelle les propos d'un dominicain mort depuis qui disait « On ne rentre pas en prière comme on rentre en syncope. » Donc, que l'Esprit-Saint puisse éclairer notre lecture et prendre le temps pour cela. La foi. La patience. Le sens de ce qu'on lit va émerger lentement. Et donc, je ne peux le forcer à venir vite. La foi, la patience, le travail. Parce qu'il faut s'y mettre, se donner un peu de peine. Si je travaille le texte, je découvre réciproquement que le texte me travaille. Et comme toute relation, nous n'en sortons pas indemnes. Et puis, une autre attitude qui peut un peu surprendre, l'humilité. Que vient faire ici cette vertu? Parce que je ne veux pas dominer le texte, encore moins le manipuler pour lui faire dire ce que je veux. le recouvrir de mon monde intérieur. Non, je me dois de respecter le texte tel qu'il est, et surtout dans tous ses aspects.
C'est un programme quasi monastique, hein, j'allais dire. En tous les cas, quand même assez exigeant. Ce qu'on comprend, c'est que il y a une question de volonté. Il faut d'abord avoir le désir de se plonger dans cette parole de Dieu et puis de la comprendre, de s'en laisser malaxer, j'allais dire. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre, ou est-ce qu'il ne faut pas déjà un petit terrain théologique, une formation préalable, parce que ça a l'air quand même assez compliqué.
Non, la formation préalable, c'est de lire la Bible.
C'est tout simplement, donc lire la Bible pour pouvoir lire la Bible.
Exactement, en sachant que nous ne sommes pas le premier lecteur de la Bible. Nous arrivons au terme de toute une tradition. Nous sommes plongés dans une tradition multiséculaire. Voilà. Je rappelle que la Lectio Divina, c'est certes une méthode de lecture et de méditation qui est aussi ancienne que l'Église et qui a d'ailleurs de profondes racines dans l'Ancien Testament. Donc nous prenons appui sur cette grande tradition qui nous apprend quelque chose d'essentiel, que tout récit biblique et que tout récit évangélique peut se lire de deux manières, parce qu'il possède fondamentalement deux sens. Tout texte biblique a un sens littéral et puis aussi un sens spirituel. Le premier va recueillir l'histoire telle qu'elle m'est racontée. Ainsi, cette parabole du jugement dernier que la liturgie nous a donné à entendre ce dimanche. Et puis des questions vont surgir. Comment cela s'est-il passé? Comment pouvons-nous le vérifier? Voilà le sens littéral. Et puis, il y a un second sens que nous appelons le sens spirituel, qui amène une interrogation beaucoup plus profonde. Pourquoi l'histoire m'est-elle racontée? Et que veut-elle me signifier pour le lecteur ou l'éditeur que je suis aujourd'hui sur mon chemin de vérité? Parce que ce qui est visé là, c'est regarder dont tel ou tel passage de l'Évangile va éclairer tel ou tel aspect de ma vie, de mon existence, dans la foi. Que se passe-t-il pour moi aujourd'hui qui reçoit ce récit comme une écriture inspirée par l'Esprit de Dieu? Finalement, c'est « que fais-tu de ce que tu as compris ?»
Donc il y a deux formes de lecture, hein. Une lecture un petit peu comme on l'apprend à l'école parfois, où même on peut prendre des notes, faire des petites annotations à côté, se repérer dans l'histoire. Et puis ensuite, un temps plus spirituel, où on essaie de comprendre comment Dieu rejoint notre âme à travers ce texte. C'est bien cela ?
On peut le formuler ainsi. Et pour le formaliser davantage, l'Église propose une méthode. Alors, à la limite, je dirais, il peut y avoir même deux méthodes. Mais d'abord, je voudrais quand même préciser un point que... On part du constat qu'il y a essentiellement donc deux sens de l'écriture, mais surtout rappeler qu'ils ne sont pas accessibles l'un sans l'autre. Le sens littéral, c'est celui qui est immédiatement à ma portée, c'est celui que je vais travailler. Et le sens spirituel, lui, va émerger peu à peu de lui-même, tandis que nous faisons ce travail de lecture. C'est un peu comme en montagne où tout à coup les nuages qui s'accrochaient aux rochers sur lesquels on grimpait sont soit aspirés par la chaleur ou projetés par le vent et ainsi la perspective du paysage se dévoile complètement. Voilà. Alors c'est pour cela que l'Église en effet a proposé trois ou quatre étapes dans la Lectio Divina. Origène, qui est donc un théologien du IIIe siècle, lui évoque une pratique en trois étapes qui permet de prier grâce à une lecture en profondeur de la Bible. D'abord, frapper. Voilà. C'est une démarche consciente et volontaire de la part du priant. Je décide. Voilà. Ensuite, c'est chercher, parce que Dieu ne force jamais la rencontre. Il se laisse trouver par celui qu'il cherche. Et puis enfin, demander. Et c'est donc bien vers la prière que cela nous amène. Voilà. Et ce sont trois gestes faits avec foi que le Christ lui-même nous avait d'abord transmis. En Matthieu 5, on lit cela, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. » Donc cette pratique est donc en trois étapes. Alors il y en a une autre, plus connue, qui se déroule en quatre temps. Elle provient de l'échelle sainte de Guigues le Chartreux. Alors, je voudrais être le plus simple possible et ne pas être pédant. C'est une pratique qui est quand même très ancienne, celle d'un moine du XIIe siècle, donc Guigues le Chartreux, et qui va illustrer ce cheminement de la Lectio Divina en évoquant l'image de l'échelle du rêve de Jacob. Je cite le texte de Genèse 28. « Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. » Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et pour lui, il faut donc par étapes se rapprocher du verbe, avec un V majuscule, hein, en partant de nos mots à nous, de notre vocabulaire, du texte déjà, en sa littéralité. Et Guigues le Chartreux a initié cette démarche en quatre étapes, la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Alors, je mets tout de suite un point d'alerte. Pourquoi ? Parce que c'est toujours un peu le danger ou le piège de la méthode, hein, d'un découpage qui finalement devient trop théorique. Hein. Nous ne sommes pas là d'abord pour appliquer une méthode qui va nous assurer d'entrer dans, qui pourrait nous assurer d'entrer dans la quintessence du sens spirituel d'un texte biblique. Non. Ce processus, s'il est mécanique, va nous ôter notre liberté et plus encore la liberté même de la parole de Dieu. Alors laissons-la agir à sa guise et à la mesure de notre désir. Alors, je vais surtout me contenter d'insister sur l'importance de cette première étape, lire. Mais avant, je voudrais rappeler qu'il n'y a peut-être pas forcément quatre étapes. J'en mettrais volontiers six. J'en rajoute une au début. C'est d'abord prendre le temps de faire le silence. Faire silence pour lire, méditer, prier, contempler, et ensuite j'en rajouterai une sixième qui est agir. Même encore une fois, s'il ne faut pas se sentir obligé de les parcourir systématiquement. Alors, la toute première étape, alors qui serait préalable, c'est le temps de la préparation, c'est l'ouverture à l'Esprit-Saint. Avant toute chose, il est important d'invoquer le Saint-Esprit. Nous avons besoin de son aide pour nous donner la capacité, la qualité d'écoute nécessaire, la lumière pour déceler ce qui nous est dit et le comprendre, et puis les mots pour pouvoir exprimer notre prière. Je cite Saint Jean-Marie Vianney qui disait « Mon Dieu, envoyez-moi votre esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. » Il existe plein d'autres prières au Saint-Esprit. Mais là, ce qui est important, c'est se préparer à la rencontre avec la parole dans la prière. Et cela est aussi important que la qualité de la lecture et du commentaire du texte. Parce que la prière prédispose à lire la parole d'un cœur libre. Et il faut chercher à créer une atmosphère de silence, de recueillement, grâce à laquelle les sens sont apaisés. Par exemple, pour ceux qui goûtent à la spiritualité de l'icône, eh bien, on peut prendre aussi un temps pour que le regard se pose sur l'icône. Et je propose par exemple de méditer sur celle du Pantocrator, hein, qui représente le Christ ressuscité tenant une Bible. Et cette icône signifie que c'est lui, la parole vivante, que nous rencontrons en lisant la Bible. Alors après, il y a en effet cette première étape, lire, la lecture. Et cette première phase consiste à lire le passage choisi une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, afin de bien s'en imprégner.
Alors là, ça peut être au hasard, ou alors on peut se préparer au dimanche qui arrive en prenant les textes du dimanche qui arrive. Là, on est assez libre. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ouvrent la Bible au hasard et qui reçoivent comme un cadeau le texte de la page sur laquelle ils sont tombés.
Absolument. À cette question, quoi lire ? Eh bien, en effet, ouvrez la Bible ou prenez l'évangile, comme vous l'avez dit, eh bien, celui du dimanche précédent ou celui du dimanche qui vient. Et reconnaissons-le, pour cette première étape aussi, nous avons souvent besoin d'aide. Comment faire quand on est devant ce texte que nous aimerions creuser ? Eh bien, se dire que nous nous trouvons là face à une montagne. Nous sommes un pays de montagnes. Et la montagne, nous y sommes habitués. Et regardons les isards. Ils sont là, sur la paroi. Que font-ils ? Eh bien, ils cherchent les aspérités, les défauts du rocher, comme autant de prises possibles qui vont leur permettre d'avancer. L'isard ne va pas aller tout droit, Mais par contre, il ne va pas négliger non plus d'emprunter des sentiers déjà tracés par d'autres avant lui. Combien de textes croyons-nous connaître par cœur? Celui-là, je l'ai déjà entendu mille et mille fois. Et la tentation, c'est de refermer tout de suite le livre. Justement, prenons le temps de chercher toutes les aspérités du texte, toutes les brèches par lesquelles nous pouvons pénétrer à l'intérieur.
Et puis si à chaque fois ça nous rejoint dans notre vie, eh bien comme notre vie continue, forcément, ça nous rejoint toujours à un moment particulier, donc il y a toujours quelque chose de nouveau.
Exactement. Mais reprenons l'exigence de la lecture, hein, parce que ça, c'est la première étape qui pour moi est fondamentale. Le reste viendra par surcroît, hein. Alors, face à ce texte, eh bien, commençons par l'interroger, lui poser des questions. Rien de tel que des questions toutes simples, des questions d'enfant, pour entrer dans le secret du texte. Alors, avant l'analyse de détail, ce texte peut susciter, par exemple, une impression générale, comme lorsqu'on se trouve devant un monument. Hein. Quelle est son architecture d'ensemble? Voilà. Jésus nous demande d'ailleurs de rester dans sa parole, qui est une maison où existent plusieurs endroits. Donc à nous d'en percevoir les éléments porteurs. Et puis, une fois cette impression générale dégagée, on peut rechercher les personnages clés, les mots essentiels, les principaux verbes d'action. Hein. Et le pas suivant est alors de découvrir le foyer de la maison, le message clé du texte. Et puis on peut se demander aussi quelle résonance biblique ce texte évoque en nous. Le propre de la Lectio Divina, c'est de faire usage de la méthode de l'analogie des Écritures. C'est-à-dire que l'Écriture est interprète d'elle-même. Les textes parallèles, par exemple, vont éclairer le message et puis permettre d'entrer plus pleinement dans la parole. Voilà. N'oublions pas que c'est la Bible, que la Bible s'éclaire par la Bible. Qu'un passage biblique doit d'abord s'expliquer par un autre passage biblique. Et puis, autre méthode possible, de comparer des traductions. Et puis, également et surtout, mémoriser. Mémoriser le texte. Et cette mémorisation va nous permettre de vivre, sans même s'en rendre compte, l'étape suivante de la lectio, qui est celle de la méditation. Méditer. Mémoriser des textes bibliques fait que la parole va nous habiter et remonter spontanément à notre conscience pour éclairer également quelque chose que nous avons à vivre au présent, pour reprendre ce que vous disiez. Alors, méditer le texte, ben c'est ce que nous pratiquons dans notre lecture quotidienne de la Bible. Jusqu'ici, rien de terriblement bizarre, hein. Donc, qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui me choque? Qu'est-ce qui me semble important? Comment appliquer ce texte dans ma vie? Est-ce qu'il y a des mots qui prennent un sens particulier pour moi? Voilà, je ne rentre pas dans des grandes considérations théologiques, je reste centré sur l'application dans ma vie. Qu'est-ce que ce texte produit en moi? Méditer. Et puis, ensuite, c'est l'étape de la prière, qui peut être pratiquée de plusieurs manières. Deux exemples. Quelle est ma réponse à Dieu? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à Dieu après la méditation de ce passage? Et cela peut être le début d'une conversation avec Dieu. Par exemple, ce texte en moi provoque la louange, l'intercession, une confession, un renouveau de l'alliance, etc. Et puis, je peux aussi prier le texte biblique en le mettant à la première personne du singulier. Je le prends pour moi. Alors, lire, méditer, prier, contempler. Et dans cette dernière étape de Guigues le Chartreux, eh bien, je me tais. Je reste simplement dans la présence de Dieu. Je n'attends rien de spécial. Je suis simplement attentif si Dieu veut me dire quelque chose. J'écoute. Si je ne reçois rien de Dieu, je reste juste dans sa présence gratuitement. Et si je reçois quelque chose de la part de Dieu, eh bien, le noter par écrit pour m'aider à cheminer avec cette pensée pour qu'elle porte du fruit, avoir une confirmation. Et vient maintenant la sixième étape, telle que je le disais au début, eh bien, c'est agir, le temps de l'action. C'est-à-dire que la Lectio Divina, elle-même, avec ses moments principaux, c'est déjà une action, parce que la lecture du texte, elle est active. Mais comme la Lectio Divina est préparée dans la prière, elle va être prolongée dans l'action. Pour reprendre les propos de l'épître de Jacques, eh bien, il s'agit de devenir des réalisateurs de la parole entendue. De vivre ce que Jésus a vécu. Sinon, toutes nos belles résolutions vont évidemment s'écrouler comme un château de cartes. Si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, celle-ci, comme la manne, produit les vers qui rongent, dit Césaire d'Arles, qui a beaucoup écrit justement, qui était un des grands initiateurs de la Lectio Divina. Alors, comment proposer de passer à l'action? Alors, il peut y avoir deux manières concrètes. Si on vit la Lectio dans un groupe, eh bien, on peut suggérer un partage sur ce qui nous a frappé dans le texte. Notre vie est une histoire qui se construit à travers nos relations avec les autres. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir partager nos découvertes. La parole de l'autre va me structurer et me fortifier lorsqu'elle est l'écho d'une méditation sur la parole de Dieu.
Ça veut dire qu'on garde la même méthode, mais le temps de réflexion, c'est un partage aussi. Non seulement nous, on se pose des questions, mais on écoute aussi les questions et les réponses que les autres apportent à ce texte. On échange sur ce que l'on ressent en fait quand on est en groupe.
L'engagement se joue à un double niveau. D'abord, de pouvoir avec d'autres recueillir le fruit de façon immédiate au terme de cette lectio. Et ensuite, sur un temps plus long, c'est comment je vais m'engager, comment le Christ va m'engager concrètement dans ce que j'ai à vivre au cœur même de mon quotidien. Je me rappelle à l'instant le récit de la Transfiguration. Les apôtres sont au cœur même du dévoilement de la glorification de Dieu. Et ils voient comme par anticipation ce qui va advenir. Très bien. Par contre, l'évangéliste insiste également que si les disciples sont montés au mont Tabor, ils redescendent. Et dès qu'ils redescendent, ils sont happés tout de suite par la foule. Qui a besoin de guérison? Qui a besoin d'une parole de réconfort? Qui a besoin de pain? Donc c'est bien cela, hein, c'est comment structurer notre action pour qu'elle soit bien nourrie de la parole de Dieu. Je voudrais simplement, pour finir, redire qu'il y a autant de manières de faire la Lectio Divina que de lecteurs de la Bible. Ça fait beaucoup, mais c'est une bonne chose, hein, parce que j'évoquais l'humilité, hein. Chacun, finalement, développe sa propre méthode, entre guillemets, sa propre manière de sentir. Voilà. Et ceci nous rend attentifs au fait que chacun doit entrer de manière personnelle dans une méthode, je vais le traduire par le fait de faire chemin avec, hein. La méthode, c'est faire chemin avec. Nous ne sommes pas faits pour la méthode, mais la méthode est à notre service, afin de permettre au Christ, justement, de cheminer à nos côtés. Alors, à nous de l'adapter pour qu'elle nous soit vraiment utile pour notre salut et qu'elle soit aussi utile à nos frères et à nos sœurs.
Eh bien voilà, merci beaucoup, Père Pierre Jamais. C'est une bonne introduction en ce temps de l'Avent. Voilà, l'Avent, c'est un temps idéal pour se plonger au cœur de la parole de Dieu. Merci beaucoup pour ces indications, pour ces pistes de lecture. On vous souhaite une très bonne année liturgique, un très bon temps de l'Avent.
Merci à vous aussi et bonne lecture. Tenez bon.